Bienvenue sur Nectar, le podcast des entrepreneurs champenois. Moi c'est Barbara.
Et moi c'est Emeline. Entrepreneuses rémoises, nous avons eu le temps de comprendre l'environnement et l'écosystème dans lesquels évoluent les indépendants. Et au travers d'une conversation, Nectar est né. Bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs, bonjour Barbara.
Coucou Emeline.
Comment tu vas pour cet épisode 14?
Mais toujours en forme. Moi j'adore enregistrer les épisodes, donc je suis ravie d'être là.
Bon bah c'est cool. Autour de la table, on reçoit Nathan Lamontagne. Salut Nathan.
Salut.
Tu vas bien?
Bah ça va très bien. Un peu froid en ce moment, mais
oui, c'est
on
vrai.
Fait comme on peut.
C'est vrai. Nathan, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, donc je m'appelle Nathan Lamontagne, je suis gérant et fondateur de l'agence web ViaDI, basée à Reims, qui est du coup une agence où on accompagne les entreprises dans leur digitalisation, que ce soit par leur site internet, des logiciels métiers ou des applications.
Ok, elle a été créée quand?
Elle a été créée en août dernier, donc c'est relativement récent. Okay. En tout cas, l'agence a été créée en août dernier, je travaille dans le domaine depuis un moment. Mais l'agence a été créée en août dernier, donc ça fait 4-5 mois qu'elle existe et qu'elle se développe tranquillement.
Ok, un départ positif.
Un départ plutôt positif qui partait pas de zéro, puisque j'avais déjà, j'avais déjà une expérience, je pense qu'on en reviendra après. Mais ça croît, ça se développe plutôt bien, les signaux sont mieux que ce que j'imaginais il y a quelques mois quand j'ai lancé ça. Et donc c'est très positif pour la suite.
Cool.
Trop cool. On va revenir un tout petit peu en arrière. Qu'as-tu fait comme étude? D'où tu viens? Enfin voilà, un peu redis-nous comment t'es arrivé justement à ViaDI.
Donc moi je suis Rémois, je suis né à Reims. Alors mes parents ont déménagé quelques années pendant mon enfance en région parisienne pour le travail. Mais ils sont revenus là où ils se sentaient bien. Ils sont revenus à Reims après quelques années. Donc j'ai pu terminer mes études, le collège, le lycée à Reims. Donc j'ai fait un bac scientifique au lycée Clémenceau, où je m'en suis...
Représente.
où je m'en suis plutôt bien sorti, même si c'était pas gagné d'avance, mais je m'en suis sorti avec une mention très bien au bac. Donc,
On appelle le même parcours du coup.
disons que moi, les études, le collège ou le lycée, ça a été toujours moins j'en fais, mieux je me porte. Et donc, se limiter à 11-12 de moyenne sans faire grand-chose, ça m'allait très bien. Jusqu'au jour où on arrive à un moment où il faut commencer à travailler, notamment au lycée. Et j'ai eu le droit à un très mauvais premier trimestre de seconde, où je me suis retrouvé à 7 de moyenne. Ça pouvait pas le faire pour mes parents. Donc je me suis fait remonter les bretelles comme il faut. Et en fait, ça m'a donné... Du coup, je me suis forcé à retravailler, à prendre
du travail.
Et à comprendre que en fait, travailler, c'est pour un objectif. Et du coup, quand on a atteint notre objectif, donc là, c'était des bonnes notes, en l'occurrence, on est satisfait de son travail. Et du coup, ça m'a donné envie de me mettre au travail. Et du coup, je m'en suis sorti avec une mention très bien au bac. Alors, 16,00, c'était vraiment la limite. Mais je peux dire que j'ai eu la mention. Et derrière ça, en fait, je ne savais absolument pas quoi faire. Du coup, mon parcours me permettait d'aller à peu près où je voulais. Mais je savais pas... Non pas que je voulais pas travailler, mais en fait, beaucoup de choses me plaisaient. Et aucun secteur, je me disais, OK, je veux faire ça plus tard dans ma vie. Et mes parents m'ont parlé d'une école qui s'appelle le CESI, qui est à Reims. Donc, c'est une école nationale, mais c'était pour le campus de Reims qui faisait des portes ouvertes pour les lycéens. Ma mère, elle m'a dit, écoute, vas-y, va voir, c'est une école d'ingénieurs, tu peux aller voir ce qu'ils proposent. J'y suis allé et j'ai accroché tout de suite avec leur discours, puisqu'en fait, ils proposent des cursus pédagogiques avec une pédagogie très active, où en fait, on est tout le temps en mode projet. On n'a pas vraiment de prof, on a plutôt des tuteurs qui viennent nous accompagner sur les projets et nous inculquer les notions techniques nécessaires de base pour arriver au bout du projet. Mais toute l'année, on est en mode projet. Chaque semaine, ils nous posent une nouvelle problématique.
Ouais, d'accord. Il y a moins de théories cours derrière un bureau à c'est écouter ça. Pendant des heures et plus dans l'action et la pratique.
C'est ça. Et du coup, on est en petit groupe, on est des classes de 15 personnes maximum. Et du coup, on est toujours en groupe à travailler ensemble. Et donc, cette proposition m'a énormément plu. Et j'ai dit à mes parents, bah, écoutez, je ne veux pas faire d'autres portes ouvertes. Moi, j'ai bien aimé leur discours. Ça me plaît, go là-dedans, on y va.
Okay.
Donc, du coup, j'ai fait mes inscriptions dans cette école. Donc, c'était un cursus d'ingénieur avec une préparation intégrée. Donc, 2 ans de préparation qui, du coup, nous renvoie vers le cursus d'ingénieur qui est dans la même école. Donc, j'ai fait 5 ans dans la même école, au CESI à Reims.
OK.
Voilà. Et après, donc, terminé mes études, je me suis lancé... pendant mes études, du coup, j'ai fait des choses, mais je pense qu'on pourrait revenir après.
Ouais.
Mais du coup, après mes études, je me suis lancé tout de suite en indépendant. Et après quelques mois de freelance, j'ai lancé ViaDI en août dernier.
Tu t'es lancé, donc, du coup, très, très jeune. Vraiment, cette envie d'entreprendre, est-ce que tu l'as toujours ressenti? Ou est-ce que ça a été... Il y a eu une opportunité à un moment d'être entrepreneur, d'être freelance. Tu étais en micro-entreprise, du coup.
C'est ça.
Donc, est-ce que ça a été une opportunité ou est-ce qu'il y a toujours eu cette petite flamme d'entrepreneur au fond de toi?
Bah, si je reviens en arrière, je dirais qu'il y avait des signaux, un peu comme tous les jeunes, collège, lycée, l'envie de faire des petits projets. C'était l'époque YouTube, envie de se lancer sur YouTube, des choses comme ça. Et j'avais déjà lancé des petites démarches, sans me dire que c'était de l'entrepreneuriat, mais au final, on n'est pas loin.
Ouais.
Même avec des jeunes qui se lancent sur les réseaux sociaux pour faire des vidéos qui peuvent paraître anodines, au final, on est quand même sur le fait d'entreprendre quelque chose et sortir de sa zone de confort. Donc, il y avait déjà des petits signaux. Mais je crois que tout vient d'une discussion en terminale avec un ami du lycée qui s'appelle Hugo Andrin, qui est toujours un ami à moi, où il m'a dit, bah écoute, moi, en fait, j'avais pas cette notion de parcours professionnel où on pouvait être entrepreneur. Et il m'a dit, bah écoute, moi, je connais quelqu'un dans ma famille, et enfin, ça me parle, j'aimerais bien en fait être mon propre patron plus tard, et du coup, me donner les moyens dès aujourd'hui de travailler, d'aller dans des bonnes écoles, et pouvoir avoir toutes les capacités pour être mon propre patron et lancer des projets. Et ça a un peu fait des clics en moi. En fait, c'était une option que j'envisageais pas du tout.
C'est pas le parcours classique.
C'est ça, et en fait, on nous en parle pas à l'école.
C'est ça.
Non.
Et sauf si on a un entourage avec des entrepreneurs, ce qui, moi, n'est absolument pas le cas, on sait pas que c'est une possibilité. Mm-hmm. Et c'est là où j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai que si je travaille fort, je pourrais être mon propre patron plus tard. Et je pense que ça a un peu drivé, ça a un peu été un leitmotiv, un peu un déclic à un moment de se dire, ouais, en fait, c'est possible de faire ça. Alors, au début, je m'étais dit, bon, je vais travailler des années en salariat dès que je me sens bien. Je me lancerai, puis au fil du temps, les opportunités viennent et on se dit, bah ok, pourquoi pas se lancer plus tôt et avancer comme ça, quoi.
Donc, tu étais étudiant et tu t'es lancé tout de suite. Moi, j'avoue que j'ai un peu le même parcours que toi où j'ai fini mes études et je me suis lancée tout de suite. Après mon master, je me suis lancée et je suis pas passée par la case « je vais essayer d'avoir un petit peu d'expérience », etc. Je me suis lancée, un peu tête baissée, j'y suis allée. Et
après, t'as la période Covid, toi, qui t'a... Non ?
Bah oui, j'ai la période Covid, j'ai été diplômée l'année du Covid, en 2020. D'accord. Et c'est vrai que le marché de l'emploi était un petit peu bouché. Mais en fait, je cherchais même pas forcément... En fait, je savais pas trop quoi faire. Est-ce que je trouve un taf ou est-ce que je lance ma micro-entreprise ? Et le marché étant bouché, je me suis dit, tiens, on va lancer, puis on va voir comment ça se passe.
Mais après, tu dis que tu as tout de suite été lancé, mais en fait, tu as été quand même en alternance, donc tu as goûté quand même au salariat.
Oui, bah, parce que j'avais mes études. Et,
oui, mais mine de rien, tu as goûté au salariat, tu sais comment ça se passe quand même en entreprise.
Oui, avec l'alternance, effectivement, c'est une expérience professionnelle, mais là, quand on disait d'avoir vraiment le statut de salarié avec, tu vois, le CDI ou le CDD, moi, c'est vrai que j'ai pas vécu ça. Mais c'est vrai qu'avec l'alternance, t'as quand même une expérience professionnelle qui arrive où, oui, tu as la place d'un salarié au sein de l'entreprise.
Moi, je l'ai vécu parce que moi, justement, j'étais en parcours très classique à part avant le lycée, pour le coup, où j'ai un peu galéré, mais... Moi, ça m'est pas venu du tout à l'idée de me lancer, tu vois. J'ai mes études, je veux mon CDI, je veux gagner mon argent, enfin voilà, il y avait un peu ce truc-là. Et c'est parce que j'ai fait du salariat que je voulais me lancer. J'aurais jamais pu, enfin, je crois que ça m'est même pas venu à l'idée de me lancer direct après mes études. Mmh. Parce que je crois que je connaissais même pas le principe de se lancer à son compte, enfin, on l'apprend pas en fait. Donc, c'est juste parce que je suis devenue graphiste. Que c'est un métier qui se fait beaucoup en indépendant, que j'ai connu qu'on pouvait faire ça. Mais jamais on m'en a parlé, je connaissais pas de gens qui faisaient ça. Donc c'était et c'est parce que le salariat aussi me correspondait pas du tout.
Ça a été ton déclic.
Ah ouais,
toi, ton déclic, ça a été
le salariat.
Le salariat ne matchait pas avec tes envies et
ma vision du travail surtout, en fait.
C'est ça.
La liberté, tout ça. Enfin, bon, ça c'est un sujet qu'on a évoqué justement dans un épisode hors série. Mais parce que vraiment j'avais une soif de liberté dans ma vie pro, et c'est pour ça que j'ai voulu me lancer.
Ouais, au final, chacun a un petit peu son déclic qui est différent.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mmh. Non, c'est clair. Et du coup, toi, tu nous disais que tu avais entrepris pendant tes études. Déjà, tes études, elles consistaient en quoi en école d'ingénieur ?
Bah, comme j'expliquais, on était en mode projet. Donc, ouais. En fait, l'idée, c'est que on était très libre dans la manière de s'occuper dans la semaine. On avait des moments dans la semaine qui étaient figés avec des intervenants qui venaient nous parler des principes techniques, plus les rendus de projet et les lancements de projet. Mais en dehors de ça, on devait être à l'école, mais on était assez libre dans la semaine sur comment gérer notre temps et avancer sur le projet.
Mais c'était des projets de quoi ?
Alors, sur les projets qu'on avait, en fait, les premières années, c'était vraiment l'informatique dans sa globalité.
D'accord.
Donc, c'était comprendre comment marche un ordinateur, qu'est-ce que sont les bases du développement web, quelles sont les bases du réseau. Donc, c'était des projets assez globaux où on devait comprendre comment ça fonctionnait et le retranscrire. Après, petit à petit, on rentre sur des sujets plus techniques. Où moi, par exemple, en quatrième année, j'ai fait une spécialité en développement. Et donc là, on devait développer des applications. Notamment, en quatrième année, on a refait un Uber Eats en application. Donc, par exemple, c'est le genre de projet qu'on faisait. Et voilà.
Ok. Et du coup, à partir de quand tu as eu la petite flamme d'entrepreneur en disant « Ah, oh, j'ai une idée, là, j'ai envie de la concrétiser. » Quand est-ce que c'est arrivé ?
En fait, en première année, on s'est rendu compte qu'on pouvait se dégager beaucoup de temps à l'école. Si on se débrouillait pas trop mal, on s'organisait bien, on pouvait en vrai avoir la moitié, un mi-temps de temps libre.
Ok.
Donc là, il y a plusieurs options. Soit on en profite pour faire des loisirs, donc soit sortir plus, soit jouer aux jeux vidéo, des choses comme ça, ce qui a été mon cas au début. Et à un moment, passé ça, au niveau de la deuxième année, on se dit, bon, on a du temps libre, on apprend des choses à l'école. Comment on peut un peu profiter de ce temps-là pour se développer plus et que ça soit vraiment intéressant ? Et de là, m'est venu l'aider avec des camarades de ma classe qui étaient un peu dans cette même dynamique, de se dire, on apprend des choses à l'école, allons les proposer à des entreprises ou à des assos de Reims, notamment, qui seraient intéressés par ces compétences-là. Et c'est un peu ça qui a lancé la chose, d'aller un peu toquer aux portes, voir avec les amis de la famille ou quoi, s'il n'y a pas une boutique, un site internet. De dire que nous, on s'est créé un site internet, on vient d'apprendre, on est prêt à proposer nos services. Et c'est un peu parti de là. De fil en aiguille, on a eu un, deux, trois premiers clients. Et donc, on n'avait pas encore créé une micro-entreprise ou quoi, on ne savait même pas ce que c'était. Donc là, un peu tout le truc de se dire, ok, faut qu'on crée une entreprise, comment ça marche, quels sont les différents régimes, est-ce qu'en étant étudiant, on peut entreprendre en même temps. Plein de questions qui se sont posées. Et donc, ça s'est lancé comme ça. Donc la micro-entreprise, elle a été créée. Puis on a fait ses premiers petits projets, des sites internet pour des boutiques sur Reims. Le premier site internet qu'on a fait, c'était un site pour Blossom Clinic, c'est un institut de beauté sur Reims.
Okay.
Et vous
étiez rémunéré en ce
Oui, on était rémunéré. On faisait des devis pas chers du tout, par rapport au prix du marché.
C'est pour ça aussi que j'imagine que
Ça a marché, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Et puis on n'avait pas non plus assez d'expérience pour se vendre au même prix qu'une entreprise ou un freelance qui a 10 ans d'expérience. Mais ça a été la première démarche. Et en fait, c'est vraiment cette démarche-là de sortir de sa zone de confort, aller voir des gens, proposer une expertise qu'on n'a jamais vendue de notre vie. C'est même pas savoir comment ça va rendre à la fin, parce qu'on n'a jamais vraiment fait ce genre de choses. Et de fil en aiguille, ça m'a plu, ça m'a vraiment plu. Et donc, dès la deuxième année, j'étais en freelance et je prenais déjà des petites missions comme ça de développement de site internet.
Ok. Alors moi, ma prochaine question, c'était justement comment t'arrivais à concilier à la fois tes études, mais à la fois aussi ta micro-entreprise. Mais du coup, d'après ce que tu dis, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement parce que tu avais du temps à consacrer à ta micro-entreprise. Donc du coup, ça a été plutôt simple, entre guillemets, de concilier les deux.
C'est ça. Comme on arrivait à se dégager du temps, on pouvait passer, la moitié de notre temps sur la micro-entreprise au début et après la moitié du temps sur les études. J'avoue que plus le temps passait, plus la partie micro-entreprise prenait plus le pas sur les études.
C'est ça, c'est ce que j'ai envie
de dire. Et au final, je me désintéressais pas mal des études. Et je crois que je suis revenu sur quelque chose, comme je disais au collège, je faisais le minimum. Il y a eu une période où vraiment je faisais le minimum pour les études, pour vraiment me dégager le plus de temps sur la micro-entreprise, parce que c'était vraiment ce qui m'animait au quotidien. et ce qui me plaisait. Et au final, les études, comme on reste quand même, c'est en mode projet, certes, mais on reste sur du cadre théorique. Et je progressais bien plus sur tous les sujets qui environnent le secteur d'habiter et la partie technique en étant au contact d'entrepreneurs et en lançant des projets, certes modestes, mais au moins en lançant ce genre de projet, qu'en étant en études.
Bah écoute, c'est hyper intéressant. Le fait de concilier études et travail, enfin micro-entreprise à côté, dans un des épisodes de la Jelly Week, il me semble que c'était le premier épisode de la Jelly Week, on avait reçu Marianne Citron de Pépite. Est-ce que toi, dans tes études, tu avais eu le statut officiel d'étudiant entrepreneur ?
Alors, j'ai été en contact avec les personnes qui gèrent ce statut-là. Okay. Mais il y avait eu une problématique avec mon... En fait, à un moment, on a essayé un peu de gruger le système et on a voulu faire nos stages dans notre entreprise.
Okay.
Ce qui aurait été le top, en fait, de concilier les deux. Sauf que notre école n'était pas encore au fait de ça. Et on était un peu un cas d'exemple. Enfin, ça ne s'était jamais arrivé au niveau de notre école. Et même au niveau national, on a beau solliciter les responsables nationaux de notre organisme de formation. Personne ne savait comment faire. Et du coup, ils se sont rapprochés de Pépite, notamment. On avait vu les personnes, mais notre école, on sentait que c'était un sujet encore trop nouveau. Et donc, ça n'a pas pu être fait avec nous, mais je crois qu'on a dégrossi le travail parce que j'ai appris qu'après, d'autres élèves de promo suivantes ont pu le faire.
Ah, c'est cool. Okay.
En passant par Pépite, notamment.
Ok, d'accord.
Et bon, voilà, on a été un peu le crash test qui ne s'est pas fait, mais je crois qu'on a, en fait, on a donné une possibilité, enfin, on a lancé une idée, et du coup, maintenant, limite, ils le mettent en avant. Ils le mettent en avant auprès des élèves que c'est possible. Donc, on a eu des contacts avec eux, mais on n'est pas passé officiellement par eux.
Mais c'est cool, c'est bien. Ça a ouvert la porte pour ceux qui vous ont suivi après. Donc, c'est cool.
C'est ça.
Est-ce que tu as eu une autre idée entrepreneuriale pendant tes études ?
Durant ma dernière année d'études, donc la cinquième, j'étais en alternance. Et en parallèle, et d'ailleurs, on va retrouver mon ami Hugo Andrin dont on parlait. Ah. On a eu une idée de projet qui s'appelait Helio. Et en fait, le projet consistait à faire un système pour les lieux à débit de boissons pour pouvoir commander avec son téléphone via un QR code. En fait, on tombait sur le menu du restaurant ou du bar. Plutôt du bar, c'était pas vraiment pour les restaurants. Et on pouvait commander directement sur l'application, payer en ligne et on recevait un SMS quand la commande était prête pour aller chercher notre commande au comptoir. L'idée était de désengorger un peu les files d'attente au comptoir. Et proposer aussi un système qui permet du coup d'avoir des ventes additionnelles pour les bars notamment, en se disant que bah, comme les gens peuvent commander un peu de n'importe où dans le bar et aller chercher uniquement quand c'est prêt, ça peut, bah, certains gens qui diraient ok, on ne prend pas d'autres verres parce qu'il y a trop de monde au bar ou quoi, pouvait faire des ventes complémentaires. Donc on avait développé une première version du projet qui était assez complète, vraiment. La dernière fois que je suis retombé dessus, je me suis dit ok, on avait fait tout ça. Alors, on avait vraiment développé tout la partie fonctionnelle dont j'ai parlé. On l'a testé dans un bar, la Cervoiserie, c'était à Cormontreuil, je crois. Mais on l'a testé. Et du coup, on a profité, on a appelé tous nos amis, on a dit venez ce soir, c'est la soirée de lancement, on vous testez et tout.
Venez boire un verre.
C'est ça, venez boire un verre. Et ça a très bien marché. On était très agréablement surpris. Donc en fait, sur la partie produit, on était très contents. Sauf que avant de lancer cette première version, on n'avait jamais sollicité les clients finaux qui étaient les bars ou les discothèques ou les lieux à débit de boissons en général. Et en fait, on était à côté de leurs besoins à eux. En fait, on a répondu aux besoins des consommateurs.
Du particulier.
Sauf que c'est pas le particulier qui nous rémunère. C'est le bar qui met en place sa solution dans son établissement. Et on est tombé à côté de leurs besoins, les vrais besoins du client, des gens qui nous rémunèrent.
C'était en quelle année ?
C'était il y a 2 ans, c'était en 2021.
Oui, c'est marrant.
Non,
parce
2022.
Ok, parce que moi j'habitais à Lille et au moment du Covid, il y a plein de bars qui ont mis en place, en tout cas sur Lille. Enfin, je connaissais vraiment le principe, notamment un bar où j'allais souvent et on commandait à table, on payait direct machin et par contre ils venaient nous servir.
Ils venaient pour... Ça c'était une évolution qui était prévue mais on l'avait pas encore mis en place.
Ouais.
Mais oui, dans cette idée-là, et en fait il y a d'autres acteurs sur le marché qui ont pris pas des startups qui avaient déjà levé des millions et notamment Sunday qui était à fond là-dessus. Qui est une startup qui marche super fort. Et donc, bah, c'est tout. On est passé à côté. Voilà, la démarche entrepreneuriale est intéressante, mais on est passé à côté de ce qui compte vraiment, c'est comment on répond aux besoins des gens qui nous payent au final. Et ça a été un certain échec, mais là, on a appris beaucoup de choses. Et maintenant, dès que je mets en place un projet, tout de suite, je me dis, bah, va passer énormément de temps avec les gens que tu vises et comment tu peux vraiment répondre à leurs besoins.
Et vous aviez structuré cette entreprise ?
Non, on était plutôt, on était tous les deux micro-entrepreneurs, donc on se débrouillait comme ça. L'idée, c'était si vraiment on avait une première version qui marchait, là, on se serait structuré
directement.
Ouais,
bien sûr, ok.
Là, aujourd'hui, cette entreprise, elle est, du coup, c'est fermé. Enfin, pas cette entreprise, mais ce projet est clos. Ouais, il est clos.
Oui, le projet est clos. On n'est pas à l'abri, de reprendre un peu la technologie qui a été faite, pourquoi pas dans d'autres usages. Mais oui, là, pour l'instant, c'est un projet qui ne reverra pas le jour, je pense.
On reviendra après, en deuxième partie d'épisode, un petit peu parler de la fermeture de ce projet, etc. Moi, je voulais revenir un peu sur un sujet, notamment le soutien de la famille quand on est entrepreneur. Donc déjà, on sait que c'est quelque chose qui est particulier, le soutien de la famille. Mais quand on est jeune, quand on est étudiant, je m'imagine que ça va être encore plus difficile. Ma question, c'est comment toi, tes parents l'ont perçu, est-ce qu'ils te faisaient confiance, est-ce qu'ils t'ont soutenu, est-ce qu'ils ont mis des alertes, des warnings, comment ça s'est passé?
Alors, je suis allé voir mes parents du jour au lendemain. Je leur dis, je crois que je veux créer une entreprise pour créer vendre des sites internet. Ils m'ont dit, mais tes études?
Ouais, c'est ça.
Je leur ai dit, non, mais en fait, ça va être fait à côté. Vous voyez bien, j'arrive déjà à me dégager du temps et tout. Et en fait, mes parents, ils ont toujours été en mode, dans la manière dont ils nous ont éduqués avec mes frères, avec mes sœurs. J'ai pas de frères. dans la manière dont ils nous ont éduqués, c'est fais-le. On te fait confiance. Par contre, si tu fais n'importe quoi, là, on mettra les barrières.
On tombe dessus, quoi.
Donc, il y a la première version. Enfin, vas-y, tente ton truc. Ouais. On te soutient à 200%. On te fait confiance. Et va jusqu'au bout de ton idée. Et par contre, si ça part pas comme il faut, on te stoppera et on dira non, là, t'arrêtes parce que ça le fait pas. Et donc, ils m'ont plutôt soutenu au final.
Ok, cool.
Ils m'ont aidé sur la partie administrative pour créer sa micro-entreprise. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un me demande comment on crée une auto-entreprise, je dis ça prend 2 secondes, tu vas sur le site, tu crées ton auto-entreprise. Mais en fait, je me rappelle que moi, quand j'y étais, j'avais l'impression qu'il fallait faire 50 000 choses.
Ça s'est beaucoup facilité.
C'est vrai que ces derniers temps, ça a l'air de simplifier.
Ouais. Maintenant, tu vas sur un site et c'est bon, c'est fait. Je pense que du coup, il y a quelques années, quand
c'était il y a 5 ans.
Ouais, c'est ça. Donc, mine de rien, c'était déjà un peu plus complexe. Plus de paperasse, je pense.
C'est ça. Et ils m'ont, ma mère qui s'occupe de toute la partie administrative à la maison m'a aidé pour ces points-là. Et une fois que j'étais lancé, ils m'ont fait confiance. Ils me demandaient, ça avance comment, ta société Moi, j'allais voir à chaque fois, j'ai fait un site, super, j'étais super content, ils étaient contents pour moi. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce sujet de fond de tes études, il faut que ça marche. Tu fais ce que tu veux à côté, on te fait confiance, mais il faut que tu aies ton diplôme à la fin et que ça marche.
En gros, remplis la part du contrat des études et à côté, nous, on te soutient.
C'est ça, c'était vraiment dans ce sens-là.
Et est-ce que une fois le diplôme en poche, du coup, comme tu disais, tu t'es pas lancé dans le salariat, tu t'es direct lancé dans l'entrepreneuriat, est-ce que là aussi, ils t'ont dit « Ok, on te soutient » ou ils étaient plus réticents en disant « ça serait bien peut-être un CDI » ou le schéma plus classique ?
En fait, je pense que j'ai fait mes preuves durant les études. Je leur ai montré que je maîtrisais mon sujet, je savais vers quoi je me dirigeais. Et pour eux, ça a été relativement logique.
Ok. Ce qui te faisait confiance, ils avaient vu ton évolution, j'imagine.
C'est ça.
Du coup, là, pour revenir un petit peu sur l'entreprise dont tu parlais, le projet que tu as eu avec ton ami, le projet aujourd'hui, il a fermé. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que c'était un échec? Est-ce que c'était négatif pour vous? Ça vous a freiné dans votre développement?
Au final, je me souviens que c'était mon ami qui a dit qui a en premier proposé le fait d'arrêter. Voyant qu'on n'avançait pas comme il faut, qu'on avait du mal à trouver des partenariats, parce qu'on était, on avait un produit qui était très avancé, mais qui était à côté des réels besoins. Et c'est donc lui, il a fait l'ESSEC, donc il vient d'une école de commerce, et je pense qu'il a vu les signaux se disant ça va pas prendre comme on l'espérait, on s'est un peu enflammé. Du coup, il m'a proposé d'arrêter le projet. Je lui ai dit ok, pas de problème, je vais continuer tout seul, et en fait rapidement je suis tombé à la même conclusion. Et au final, on avait investi quand même un peu d'argent dedans, en plus c'était l'argent de nos on était tous les deux étudiants, donc c'était pas forcément évident, mais on était tout de suite d'accord sur le fait que l'argent qu'on mettait, c'était de l'argent qu'on pouvait perdre entre guillemets, et qu'on dépenserait pas plus que ce qu'on peut se permettre. Donc on a mis de l'argent là-dedans, notamment pour faire les maquettes de l'application. On avait payé quelqu'un pour faire toutes les maquettes.
Les designs.
Ouais, une quinzaine d'interfaces de maquettes. Donc ça avait coûté un petit budget, plus le logo et tout ça. Donc, mais ça ne nous a pas freiné parce qu'on l'a tous les deux pris de la même manière, c'est que c'était un réel enseignement.
Okay.
Lui sur la partie commerciale, enfin tous les deux sur la partie entrepreneuriale, lui plus sur la partie commerciale, essayer de trouver des partenariats, sortir de sa zone de confort, appeler des gens, sachant qu'en étudiant on n'est pas forcément à l'aise à appeler des entreprises ou quoi. Et moi aussi sur la partie technique, où du coup j'ai tout développé tout seul et j'ai appris énormément de sujets sur le développement. Je pense que c'est le projet qui m'a le plus instruit sur le développement web en général.
Ok.
Parce que bah, y avait des sujets de paiement en ligne, des sujets de gestion de QR code. Des sujets de sécurité des données, enfin plein de choses que j'avais pas forcément expérimenté moi de mon côté. Et donc au final c'était c'était une forme, vu le prix et le temps qu'on a passé, c'était l'équivalent d'une super formation accélérée sur plein de sujets.
Donc
on l'a vraiment pas mal pris, le fait d'arrêter. On s'est plutôt dit ok, on a appris plein de trucs, c'est top.
Et quand tu dis que vous étiez à côté de la cible en fait de votre produit, j'ai du mal à capter pourquoi les barman n'y pouvaient pas être intéressés.
En fait, l'interface, y avait une interface tablette pour les barman, enfin pour les personnes qui étaient derrière le comptoir.
Ouais.
Et en fait, on les sortait trop de leur pipeline habituel de gestion des commandes.
Okay.
Actuellement, ils prenaient les commandes, soit les gens venaient au comptoir, bonjour, qu'est-ce que vous voulez, je vous sers, tac tac. Et en fait, ils avaient un truc un peu parasite à côté où ils devaient tout le temps checker. Est-ce qu'il y a des commandes? Et au final, ils sont un peu en rush, ils ont 4-5 personnes qui viennent en même temps, ils ont 3-4 commandes sur le truc à côté, ils ne les voient pas, donc les gens s'impatientent parce qu'ils disent bah, attendez, je suis passé par l'application pour aller plus vite, j'ai payé en ligne et au final, j'en reçois ma commande longtemps après les autres.
En fait, ce système-là, il aurait dû. Les bars auraient dû. Prendre que ce système et plus de service au bar, en fait.
C'est ça. Et en fait, on n'était pas encore assez mature pour vraiment proposer une solution qui remplace leur système actuel.
D'accord.
Avec des process.
Ouais, c'est ça.
Vraiment un accompagnement complet pour leur dire bah, écoutez, c'est comme ça qu'il faut travailler. Et aussi la légitimité de se dire ok, on va avoir des bars qui sont là depuis des dizaines d'années et on va leur dire ok, demain vous devez tout changer, on vous rapprend comment gérer votre métier. C'est pas possible. Et en fait, c'est plutôt la conduite du changement qu'on n'avait pas du tout anticipé et qui n'est pas passé. Et au final, comme je te disais, il y avait d'autres acteurs qui étaient déjà sur le marché et qui ont pris de l'avance. Et on s'est un peu découragé. On s'est dit, voilà, c'est tout, on est passé à côté. On avait notre petite fenêtre de tir, on l'a mal gérée. Donc c'était trop tard.
Ok. Et quand tu nous as contactés pour être dans l'épisode, tu nous as parlé d'échecs. C'était important pour toi d'aborder ce sujet-là dans l'épisode?
Oui, parce que je pense, en tant qu'entrepreneur, mais même dans la vie en général, c'est les échecs qui nous mènent vers les réussites.
Ok, c'est intéressant.
Et donc, je pense qu'il faut aller chercher l'échec. Se dire, en fait, faut pas voir l'échec comme un échec. Il faut plutôt le voir comme le fait d'avoir avancé quelque chose. Et en fait, chaque échec, en fait, si on a fait un échec, c'est qu'on a tenté quelque chose. Si on a tenté quelque chose, c'est qu'on avance vers un objectif. Et enfin, moi, c'est mon point de vue. En fait, vaut mieux se dire comment est-ce que je fais un pas de plus, même si je n'atteins pas mon objectif final, quel que soit le sujet, hein, mais je n'atteins pas mon objectif final tout de suite, c'est comment je fais un pas de plus pour aller vers cet objectif final. Et bah, des fois, on va trébucher, des fois, on va même tomber. Mais en fait, à chaque fois qu'on trébuche, au final, on a quand même fait un pas en avant. Et c'est de se dire, allons chercher l'échec. Allons chercher, enfin, c'est pas forcément aller chercher l'échec, parce qu'on se dit jamais, je teste quelque chose pour me louper. Mais il faut avancer, arrêter de réfléchir. Moi, j'avais le cas au début, dès que j'avais une idée, c'est ok, on va faire le meilleur plan pour que ce soit parfait dès le début et qu'on ait la meilleure chose possible. Maintenant, aujourd'hui, dès que je veux avancer sur un projet, c'est ok, comment je fais déjà les 5 premiers pourcents hyper vite. Même si c'est un peu bordélique au début, c'est pas top top, au moins j'ai avancé, je vais découvrir des nouvelles choses et ça va me permettre de faire les 10% supplémentaires encore mieux parce que j'aurais déjà fait 5%. Alors que si dès le début je me dis ok, comment j'arrive à 100% de mon idée, de mon projet, on va se faire tout un plan, sauf qu'on va aller de désillusion en désillusion parce qu'on peut jamais tout anticiper dans un projet. Et donc vaut mieux y aller petit à petit, courir, avancer, tomber et aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'en fait pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec. Après, voilà, faut être intelligent de savoir, on va dire, miser ce qu'on peut perdre et investir ce qu'on peut perdre et ne pas tout lancer d'un coup. que ce soit par exemple financièrement ou dans le temps qu'on a dans un projet. Mais ouais, je pense que c'est important de savoir se louper pour réussir.
Je suis assez d'accord avec toi, même je trouve que alors l'échec, c'est vrai que ça fait grand mot tout de suite, ça fait très catastrophique, mais de faire des petites erreurs au quotidien, je trouve qu'au final ça nous apprend, et je trouve que c'est important de faire des erreurs dans la vie quotidienne pour pouvoir apprendre et se renforcer sur nos compétences après ou avancer dans la vie de tous les jours. Je trouve que même c'est plutôt positif au final de vivre certains échecs. Je sais pas ce que t'en penses toi, Barbara.
Ah mais moi j'adore l'échec. Non mais c'est vrai, j'ai pas aimé ça toute ma vie, hein, faut être clair. Mais j'en ai déjà parlé, je vais pas en reparler 50 fois, mais moi j'ai vraiment pas aimé la période lycée et j'ai vraiment été très mauvaise à l'école. J'ai raté mon bac 2 fois. Ça a été l'échec le plus dur de ma vie parce que tu rentres pas dans les cases de la population parce que t'as pas ton bac. Et c'était vraiment un drame, quoi. Je l'ai vécu en drame. Sauf que je serais pas du tout là aujourd'hui sans ça, quoi. Et maintenant, déjà j'en parle, avant j'en parlais pas parce que t'as une honte d'échec. Et en fait, c'est pas grave d'échouer, c'est tout, ça fait partie de la vie. Mais par contre, ça m'a donné une maturité de dingue, ça m'a fait découvrir d'autres personnes, j'ai rencontré d'autres gens, j'ai vécu une autre expérience scolaire derrière. Enfin voilà, j'ai évolué et au final, aujourd'hui, je ferais pas ce métier-là, c'est sûr. Enfin donc, avec le recul, maintenant j'adore l'échec. Je fais également encore des erreurs professionnelles. Tous les jours, je me rends compte que des fois j'aurais pas dû faire ça. Enfin voilà, même dans Nectar, des fois on fait des bêtises. Enfin voilà, des petites. C'est pas des échecs, mais on se dit, bon, on n'aurait pas dû faire ça, c'est tout. Mais c'est pas grave, on rebondit. Je rebondis du coup aussi sur ce que tu as dit, de ne pas y aller à 100% quand on se donne sur un projet. Et ça, c'est encore moi l'erreur que je fais. Et j'ai du mal à des fois lâcher prise sur certaines choses. Quand je commence un nouveau projet, j'ai envie qu'il soit parfait dès le début. Et je l'ai fait avec Nectar, je l'ai fait avec d'autres projets. Parce que je m'investis tellement, je donne tellement mon cœur, mon corps, ma vie, ma santé. Non, peut-être pas. Mais beaucoup quand même d'énergie. Que j'ai du mal à me dire je donne que 5% parce qu'il y a quand même une charge mentale, il y a tout ça, et je veux vraiment que ce soit parfait parce que j'ai l'impression qu'on me juge derrière. Enfin, tu vois, c'est aussi moi derrière qui est jugée, tout ça et tout. Donc, je sais que je dois travailler là-dessus et je pense que t'as raison dans le fond. Mais aujourd'hui, moi, j'en suis pas capable. Je sais pas comment toi, Emeline, t'arrives à percevoir ça, mais moi, j'ai du mal.
En fait, j'étais un peu comme toi avant. Où je trouve que c'est se mettre beaucoup de pression en fait quand on veut être parfait, quand on veut vraiment perfectionner les projets, enfin même dans la vie personnelle, hein, j'étais vraiment comme ça. Et en fait maintenant j'essaie vraiment de pas de relativiser, mais de prendre mon temps et de me dire au pire il y a pas mort d'homme. C'est ce que je me dis, et je me dis au pire il y a pas mort d'homme et je vais apprendre de mes échecs et je ne referai pas la même erreur. Et moi c'est pour ça que je trouvais que de faire des erreurs, d'avoir des échecs, c'est pas mauvais parce que ça t'apprend et t'avances. Donc toi du coup t'avais une entreprise, tu as eu que le projet. Alors, à chaque fois je me plante entre l'entreprise et le projet que tu as fait avec ton ami, tu avais juste ce projet, t'as eu d'autres projets qui ont fermé depuis ou
Oui c'était, on va dire c'est le projet principal que j'avais. Alors après il y avait quand j'étais freelance pendant mes études, on avait fait une sorte d'agence de com, de collectif avec plusieurs étudiants pendant mes études. Et voilà, c'est un projet qui, on avait créé une entreprise, mais c'était dans la continuité de ce que je faisais, donc c'est pour ça que je le dissocie pas forcément. Ouais, okay. Aujourd'hui, on travaille plus ensemble, ça m'a aidé à travailler en équipe, voir plein de sujets sur l'entrepreneuriat. Donc on va dire que c'est surtout ce projet-là qui a été un projet phare, un certain échec, mais un projet phare. Pendant mes études, qui m'a appris beaucoup de choses.
Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, tu as appris des erreurs que tu as commises dans le passé pour faire que ton entreprise, qui s'appelle Viadi, fonctionne aujourd'hui. Enfin, tu ne refais pas les mêmes erreurs dans ton entreprise aujourd'hui.
C'est ça. Aujourd'hui, déjà, on travaille, et ça revient avec le sujet des échecs, on travaille beaucoup plus en itération. C'est-à-dire que, donc aujourd'hui, j'ai une équipe, donc je ne suis plus forcément tout seul. On est plusieurs à réfléchir sur les sujets, donc déjà ça évite les erreurs d'idées, parce qu'on brainstorm tous ensemble. Mais on travaille beaucoup en itération, on va tester quelque chose, on va avoir une idée, elle peut paraître top, nul, on sait pas trop. Ok, qu'est-ce qu'on fait pour que dans 10 jours, on sait si l'idée elle vaut le coup ou pas? Et on va tester, on va prendre le temps qu'il faut sur les X jours pour tester rapidement l'idée. Ça peut être pour de la com, pour aller chercher des clients, pour revoir les process de gestion de projet, pour tester des nouvelles technologies. C'est ok. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça nous prenne le moins de temps possible pour se rendre compte si c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et je pense que c'est ces projets précédents qui m'ont donné un peu cette mentalité-là.
Ouais.
Et ça marche plutôt bien. Sur la com, par exemple, on s'est dit bah, quels réseaux sociaux sont intéressants, quel format. Mmh. On a testé déjà plein, en quelques mois, on a déjà testé plein de choses différentes. Et au final, c'est ces tests-là qui nous donnent une ligne directrice de ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Et en fait, tu utilises le mot « tester ». C'est vrai que quand on teste, on s'attend à ce que ça marche et on s'attend aussi à ce que ça « foire », entre guillemets. Donc, à ce qu'il y ait un échec sur ce test. Et je trouve ça intéressant d'utiliser, enfin, de raccorder le mot « tester » et le mot « échec ».
Puis on est, comme c'est un test, on n'est pas déçu.
Bah oui.
Parce qu'en fait, c'est un test. Donc c'est,
t'attends rien derrière.
On a des hypothèses. Et ouais, c'est un peu une démarche scientifique. Mmh. On a des hypothèses. On va les valider ou non. Quel est le programme pour le tester, et si ça marche, bah on passe à l'étape suivante. Si ça marche pas, on laisse tomber, on passe à autre chose.
Ouais. C'est rigolo parce qu'en fait, je me demandais pourquoi tu sors d'un bac S et que tu te retrouves à faire alors de l'informatique, à créer des applications et tout ça. Et maintenant, j'ai vraiment la boucle.
Ouais, c'est
enfin,
ça.
Voilà, tout est bien qui va bien. Où tu fais un bac S, où tu fais des hypothèses, où tu testes des choses. Et ok. Et ben voilà.
Comment t'es arrivé de freelance à Viadi? Est-ce qu'il y a une part de « j'ai plus envie de travailler seule » Aujourd'hui, c'est une société, Viadi?
C'est une société.
C'est une société. Tu es le gérant, le fondateur, le président.
Unique associé, oui, je suis tout seul.
Tu es tout seul. Et d'accord. Et du coup, tu emploies des gens?
C'est ça.
Des collaborateurs?
Ouais,
ils sont salariés?
Alors, on a plusieurs types de personnes. On a un alternant qui est un ami d'enfance qui, du coup, fait un master business development.
Ok.
Et donc, je l'ai embauché en alternant et il m'accompagne sur toute la partie commerciale et marketing.
Ok.
Et le reste des personnes avec qui je travaille, ce sont que des freelances. Okay. Pourquoi? Parce que je trouve que ce format-là est le plus intéressant, puisque en fait, on recrute des personnes qui ont des compétences très particulières, très précises, notamment dans le développement informatique où on a des dizaines et des dizaines de technologies différentes, des dizaines de secteurs, en fonction de chaque secteur d'activité, on appelle telle ou telle compétence. Et en fait, je me suis dit, j'ai deux manières de me staffer. Soit je recrute des gens, mais du coup, tout de suite, il faut que la personne elle soit assez polyvalente pour travailler sur plusieurs sujets différents, pour pouvoir répondre à plusieurs demandes différentes. Soit je prends des freelances et je les recrute au projet. En fait, je leur dis, voilà, on est sur un projet de 2 mois, donc je te recrute sur 2 mois, on se met d'accord sur le montant, et tu travailles à temps plein avec moi. Et du coup, chaque freelance a une spécialité, une technologie en particulier ou une manière de travailler qui convient et qui matche avec le projet, ce qui fait que du coup on délivre du travail très bon, enfin ouais, au mieux possible, parce qu'on ne fait pas travailler des gens polyvalents qui savent un peu faire ça, un peu faire ça. On a des gens qui sont très experts sur leur sujet, et donc en fait on fait un peu des squads, des équipes par projet où on se dit ok, on a besoin par exemple d'un graphiste, d'un web designer qui a déjà travaillé sur des applications mobiles, donc je vais prendre quelqu'un qui est expert là-dedans. On a besoin de quelqu'un qui sait implémenter des interfaces clients avec des animations par exemple, bah, je vais prendre quelqu'un qui est bon là-dedans. Et on a besoin côté gestion des données, quelqu'un qui a déjà fait par exemple des solutions bancaires pour gérer des paiements, et bah, je vais prendre quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Ça nous fait une équipe qui est ultra experte sur les besoins du client.
Ouais,
et donc,
voilà,
une équipe de choc. Et donc, en fait, au début, c'est un peu compliqué parce qu'il faut se créer son réseau de freelance et surtout trouver des personnes de confiance.
Ouais.
Alors, moi, j'ai encore une fois d'itération. Si je trouve quelqu'un dans mon réseau ou en ligne qui me semble matcher avec les besoins, je lui dis ok, on bosse ensemble, je te fais pas de test, sauf si le feeling ne passe pas.
Ouais,
mais je te fais pas de test en particulier, je te demande pas de répondre à un questionnaire pour être sûr que je te prends, je t'embauche. Si ça match, on continue. Si ça ne matche pas, on se met tous les deux d'accord, on arrête. Je te paye sur ce que tu as fait et je trouve quelqu'un d'autre.
Okay.
Et en général, je ne me suis pas trop trompé, même pas du tout pour l'instant. Et du coup, on va dire que là, actuellement, on a 6 freelances qui bossent en parallèle avec nous sur les projets. Et pour l'instant, je ne me suis pas trompé. Au final, on fait tout le temps travailler les mêmes personnes sur les projets parce que si ça se pose bien une fois, voilà.
Bien sûr, là, pas de raison.
Et ce qui va compter, ça va être la relation de confiance et la communication. Entre nous pour être sûr que ça matche.
Ça matche.
Ok.
Trop bien.
Sur quoi, enfin, où est-ce qu'on peut contacter Viadi? Est-ce que vous avez des réseaux? C'est le petit instant promo.
L'instant promo. Déjà, on peut me contacter sur mon LinkedIn perso, Nathan Lamontagne. Ou d'ailleurs, je communique en mon nom, mais je communique un peu ce qu'on fait sur l'agence, un peu les coulisses et les projets sur lesquels on travaille. Sinon, il y a le site viadi.fr où il y a un petit chatbot pour parler du projet sur lequel la personne voudrait travailler et se laisser guider, et ça nous renvoie dans notre boîte mail.
Ok, ben voilà, vous savez tout.
Eh bien écoute Nathan, je te propose qu'on passe à la fin de l'épisode. On fait toujours un petit jeu, et pour notre jeu on te propose un oui ou non. En gros on te pose une question, tu me réponds juste par oui ou non, tu n'as pas d'autres réponses possibles.
Ok.
Donc il y a une quinzaine de questions. Voilà. Émilie, tu commences ?
Ouais. Est-ce que tu es prêt, Nathan ?
Je suis prêt.
Ok. Est-ce que tu es fier d'avoir créé Viadi ?
Oui.
Tu travailles de chez toi ?
Oui.
Aimes-tu te lever le matin pour aller travailler ?
ça dépend de la veille. Je dirais oui.
Penses-tu un jour créer une autre entreprise ?
Oui.
Est-ce que tu es content de ton chiffre d'affaires en 2023 ?
Oui, mais il pourrait être mieux.
Ouais, après, t'étais récent, enfin, en 2023.
Ouais, c'est trop récent pour se rendre compte, vraiment.
Bon, en tout cas, la question, est-ce que tu es content de ton lancement ?
Oui.
Ok.
Tu emploies plusieurs personnes, difficile de déléguer ?
Difficile de s'organiser.
Es-tu heureux dans ton business aujourd'hui ?
Très heureux.
Est-ce qu'il t'arrive de procrastiner ?
Oui, comme tout le monde, je pense.
Est-ce que tes proches, amis, famille te soutiennent ?
Oui.
Est-ce que Nathan travaille le week-end ?
Oui.
Selon toi, il y a un âge pour entreprendre ?
Non.
Est-ce que tu conseillerais d'entreprendre ?
Oui, sachant que je peux donner un complément ou pas. Entreprendre n'est pas forcément créer une entreprise. On peut entreprendre rien qu'en lançant un projet, aller s'investir dans une association sportive, dans un club de sport. Donc en fait, entreprendre, c'est plutôt un état d'esprit et c'est pas forcément créer une entreprise pour moi.
Ok. Ça me rappelle aussi des discours qu'on a eu dans d'autres épisodes, donc c'est chouette.
Alors du coup, là, la question, elle est quand même portée sur une entreprise. Entreprendre, ça a été facile ?
Non.
Dernière question, est-ce que tu as aimé enregistrer l'épisode avec Nectar ?
Oui.
Merci Nathan.
Merci beaucoup. Et pour terminer vraiment l'épisode, on te demande ton inspiration du moment, de ce que tu as envie de donner. Ça peut être un livre, ça peut être un film, une personne qui t'inspire, quelque chose que tu as envie de donner aux auditeurs. Voilà.
J'ai eu un livre quand je me suis lancé en tant qu'indépendant après mes études. Au début, c'était pas forcément évident parce qu'on n'a pas forcément assez de clients pour se rémunérer et on se dit, bah, voilà, je me lance un peu dans le vide. Et j'avais pas mal d'idées, mais j'avais du mal à les construire, à vraiment me dire, ok, il faut que je fasse ça pour avancer vers ce point-là. Ça me paraissait très grand.
Ouais.
Et à un moment, il y a un livre qui est apparu à ce moment-là, c'est Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Et dans ce livre-là, on nous explique comment, avec des petits gestes au quotidien, des petits changements dans ce qu'on fait au quotidien, on peut nous emmener à créer des grandes choses. Et dans ce livre-là, en fait, il y a tout un raisonnement sur la psychologie du cerveau, sur comment des gens ont pu arrêter des addictions, par exemple pour la cigarette ou des choses comme ça, juste en changeant des petits éléments du quotidien. Et en fait, je pense que ça peut s'appliquer à des organisations, à des entreprises ou à même nous personnellement, pour changer un état d'esprit actuel et où on sent qu'on n'arrive pas à avancer ou quoi. Comment on peut changer, réfléchir à quels sont les petits points, les petits détails du quotidien qui vont nous permettre d'aller plus loin et d'aller vers notre objectif. Et voilà, donc ce livre-là, il était apparu au bon moment et ça m'a permis d'un peu de me relancer, voilà, remettre une pièce dans la machine et de relancer des choses. Et je trouve qu'il est super intéressant, je pense que tout le monde devrait le lire parce que ça peut s'appliquer à beaucoup de... soit à des organisations où il y a plusieurs personnes, soit à une chose qu'on veut arrêter de faire mais qu'on a du mal à changer d'habitude.
Dans toutes les situations.
Ouais, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses et bon, il y a aussi le côté un peu scientifique où on comprend un peu des choses sur le cerveau.
Ah, le bac S, il revient.
Ouais, c'est ça.
Jusqu'au bout, là. Ok, bah merci. Emeline, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer ?
Oui, alors moi l'inspiration, enfin c'est plutôt une citation qui est en rapport justement avec l'échec. La citation c'est de Honda, de Monsieur Honda, l'ingénieur de Honda Motors, qui a dit « Beaucoup rêvent de succès, à mon sens le succès ne peut être atteint qu'après une succession d'échecs et d'introspection. En effet, le succès représente 1% de votre travail et ce travail comporte lui 99% de ce que l'on peut appeler l'échec. » Effectivement, c'est ce qu'on se disait, les échecs, ça nous permet d'avancer petit à petit, un pas après l'autre, doucement mais sûrement. Donc voilà pour moi, pour mon inspiration.
Dans le thème.
Dans le thème.
Dans le thème, super.
Excellent.
Et pour finir, moi j'ai une marque que j'aime bien, que je suis sur Instagram. Ça s'appelle Papier Tigre, c'est une papeterie de carnets, de stylos, et très créatif. Et j'adore cette marque, j'avais envie d'en parler. Voilà. Okay. Très Allez bien. Faire un tour sur leur site.
Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, Nathan, merci beaucoup d'avoir tenu en tout cas un discours transparent, parce qu'on sait que l'échec, c'est pas toujours facile d'en parler quand on est entrepreneur et même de façon générale. Mais merci beaucoup pour ta transparence. On espère que t'as passé un bon moment. Et puis voilà.
Mmh. Bah, merci à vous pour l'accueil. Très bien reçu.
Bah écoute.
On essaye.
Ouais, voilà, on fait ce qu'on peut.
On fait essaye. Ce qu'on peut. Bah, merci Nathan. Et puis on te souhaite que des belles choses chez Viadi. Et puis on suivra l'aventure, évidemment. Les auditeurs, on se retrouve bientôt pour un autre épisode. Et puis voilà, sinon toujours nos actualités sur Instagram Nectar.podcast.
Et voilà, vous savez tout.
À bientôt.
Salut.
Au revoir.